Chapitre 7. Le 20 mai, dans la matinée, comme André Sperelli remontait le corso baigné de soleil, il s'entendit appeler devant la grande porte du cercle. Il y avait là, sur le trottoir, un groupe de gentilshommes qui s'amusaient à voir passer les femmes et à médire. C'était Jules Musarello, Ludovic Barbarisi, le duc de Grimiti, Galea Fessinaro, Gino Bominaco et quelques autres encore. « Tu ne sais pas l'événement de cette nuit ?» lui demanda Barbarisi. « Non, quel événement ?»« Don Manuel Ferrez, le ministre du Guatemala ?»« Eh bien ?» On l'a surpris au jeu, en train de tricher. Sperelli resta maître de lui-même, malgré les regards des assistants qui l'épiaient avec une curiosité maligne. Comment cela ? Galeas était présent et jouait à la même table. Le prince Cecchinaro se mit à donner des détails. Sperelli n'affecta point l'indifférence. Au contraire, il écoutait avec un air attentif et grave. Il dit enfin... « Cela m'ennuie beaucoup. » Il resta quelques minutes dans le groupe, puis salua ses amis. « Quel chemin prends-tu ? » lui demanda Cecchinaro. « Je rentre à la maison. Alors je t'accompagne un moment. » Ils descendirent vers la rue des Condotti. Depuis la place de Venise jusqu'à la place du Peuple, le corso était comme un joyeux fleuve de soleil. Les femmes, en clairs vêtements printaniers, se promenaient le long des étalages scintillants. La princesse de Ferentino passa avec Barbarella Vitti sous une ombrelle de dentelle, puis Blanche Dolcebuono, puis la jeune épouse de Lionette Lanza. « Tu le connaissais, ce Ferrez ?» demanda Galea Zasperelli, qui restait taciturne. Oui, j'ai fait connaissance avec lui l'an dernier, à Schifanoia, chez ma cousine Ateletta. Sa femme est une grande amie de Françoise. Aussi, cette affaire m'ennuie-t-elle beaucoup. Il faudrait tâcher qu'elle eût le moins de publicité possible. En m'y aidant, tu me rendrais service. Galea s'y offrit avec un cordial empressement. Je crois, dit-il, qu'on éviterait en partie le scandale si le ministre envoyait sa démission à son gouvernement sans aucun retard, comme le lui a enjoint le président du cercle. Mais le ministre s'y refuse. Cette nuit, il prenait l'attitude d'un homme offensé, il haussait la voix. Et pourtant, les preuves étaient là. Il faudrait lui faire comprendre... Tout en marchant, ils continuèrent à causer de la chose. Sperelli savait gré à Cecchinaro de son empressement, et Cecchinaro était prédisposé par cette conversation intime aux confidences amicales. Au coin de la rue des Condotti, ils aperçurent Lady Montedcumbe, qui suivait le trottoir de gauche le long des magasins japonais avec son allure molle, rythmique et ensorceleuse. « Voici Donna Hélène, » dit Galeas. Ils la regardèrent tous deux et ils ressentirent tous deux la fascination de cette marche rythmique. Mais le regard d'André pénétra sous les vêtements, y revit les formes connues, le dos divin. Lorsqu'ils l'eurent rejointe, ils la saluèrent ensemble et la dépassèrent. Ils ne pouvaient plus la voir, mais elle les voyait. Et ce fut pour André un supplice tout nouveau que de cheminer côte à côte avec un rival sous les yeux de la femme convoitée, en pensant que ses terribles yeux se délectaient peut-être à faire un rapprochement. Il se compara mentalement à Cecchinaro. Cecchinaro avait le type bovin d'un Lucius Verus blond aux yeux bleus, et dans l'abondance magnifique de sa barbe d'or, rougeoyait une bouche sans nulle expression, mais belle. Il était grand, carré, vigoureux, d'une élégance sans finesse, mais pleine de désinvolture. « Eh bien, lui demanda Sperelli, rendu audacieux par un affolement invincible. Tes affaires sont-elles en bon point ?» Avec cet homme, il savait pouvoir parler de cette manière. Galea se tourna vers André d'un air moitié surpris et moitié scrutateur. Il n'attendait pas de lui une pareille question, et moins encore une question posée d'un ton si leste et si parfaitement calme. André souriait. « Oh, que mon siège a duré longtemps !» répondit le prince barbu. « Un temps immémorial, avec des reprises diverses, et toujours sans succès. J'arrivais toujours trop tard, quelqu'un avait pris la place d'assaut avec moi. Mais je n'ai point perdu courage, j'étais convaincue que tôt ou tard mon tour viendrait. Attendre pour atteindre. Effectivement. Quoi ? Lady Hathfield n'est plus clémente que la duchesse de Skerny. J'aurai, j'espère, l'honneur très enviable d'être inscrit après toi sur la liste. » Et il partit d'un rire un peu vulgaire qui découvrit ses dents blanches. Je crois que mes hauts faits de l'Inde, ébruités par Jules Mousarello, ont ajouté à ma barbe quelques fils héroïques d'une irrésistible vertu. Ces jours-ci, ta barbe doit frémir de souvenirs. Quels souvenirs ? Des souvenirs bachiques. Je ne comprends pas. Comment tu oublies la fameuse vente de mai 1884 ? Regarde un peu, c'est toi qui m'y fais penser. Oui, le troisième anniversaire tombe, je crois, un de ces jours. Mais tu n'y étais pas. Qui donc t'a conté ? Tu es trop curieux, mon cher. Dis-le-moi, je t'en prie. Songe plutôt à tirer parti de cet anniversaire avec habileté et donne-moi vite des nouvelles. Quand nous reverrons-nous ? Quand tu voudras. Dîne avec moi ce soir vers 8 heures au cercle. Comme cela, nous pourrons ensuite nous occuper ensemble de l'autre affaire. C'est entendu. Adieu, Barbe d'Or. Cours. Ils se séparèrent sur la place d'Espagne, au bas de l'escalier. Et comme Hélène traversait la place dans la direction des deux boucheries pour monter aux 4 fontaines, Cecchinaro la rejoignit et l'accompagna. Après son effort pour dissimuler, André se sentait le cœur si horriblement lourd qu'il craignait presque de ne pouvoir le traîner jusqu'au haut des marches. Mais il était sûr maintenant que, par la suite, Cecchinaro lui confierait tout. Et cela lui semblait presque un avantage remporté. Par une sorte d'ébriété, par une sorte de folie résultant de son excessive souffrance, il allait aveuglément au-devant de tortures nouvelles, de plus en plus déchirantes, de plus en plus insensées. Il aggravait et compliquait de 1000 manières l'état de son âme. Il passait de perversions en perversions, d'aberrations en aberrations, d'atrocités en atrocités, sans pouvoir désormais se retenir, sans avoir un instant d'arrêt dans sa chute vertigineuse. Il était comme dévoré par une fièvre inextinguible dont la chaleur aurait fait éclore dans les obscurs abîmes de sa substance tous les germes des luxures humaines. Chacune de ses pensées, chacun de ses sentiments était marqué de la même tâche. Et cependant, c'était la tromperie même qui le liait d'un lien si fort à la femme trompée. Son esprit s'était si étrangement adapté à cette monstrueuse comédie qu'il n'était presque plus capable de concevoir un autre monde de volupté, un autre mode de douleur. Cette incarnation d'une femme dans une autre n'était plus un effet de la passion exaspérée, c'était une habitude de vice et, par la suite, un besoin impérieux, une nécessité. Dès lors, l'instrument inconscient de ce vice lui était devenu aussi nécessaire que le vice même. Par un phénomène de dépravation sensuelle, il était presque arrivé à croire que la réelle possession d'Hélène ne lui aurait pas donné la rare et violente secousse de volupté que lui donnait cette possession imaginaire. Il était presque arrivé à ne plus pouvoir, dans ses rêves d'amour, séparer les deux femmes l'une de l'autre. Et de même qu'il se figurait diminuer le bonheur que lui vaudrait la possession réelle de l'une, de même aussi sentait-il tous ses nerfs obtus lorsque, par lassitude morale, il se trouvait, sans interposition d'image, en la présence réelle de l'autre. Il fut donc atterré par la pensée que la catastrophe de Don Manuel Ferrez lui ferait perdre Marie. Lorsque, vers le soir, elle vint au rendez-vous, il s'aperçut immédiatement que la pauvre créature ignorait encore son malheur. Mais le jour suivant, elle arriva, haletante, bouleversée, pâle comme une morte, et elle se jeta dans ses bras en se cachant le visage, et il lui dit, parmi les sanglots, « Tu sais ?» La nouvelle s'était répandue. Le scandale était inévitable, la ruine était sans remède. Il y eut ensuite des jours désespérés de torture, pendant lesquels Marie, restée seule après le départ précipité du tricheur, abandonnée par le peu d'amis qu'elle avait, persécutée par les créanciers innombrables de son mari, perdue au milieu des formalités légales des saisies, au milieu des huissiers, des usuriers et autres drôles de cette espèce, fit preuve d'une vaillance héroïque, mais sans réussir à éviter le désastre final qui en néantit tout espoir. Et elle ne voulut accepter de son amant aucun secours. Elle ne lui dit rien de son martyre, alors même qu'il lui reprochait la brièveté de ses visites d'amour. Elle ne se lamenta jamais, elle sut trouver encore pour lui un sourire moins triste. Elle sut obéir encore à la passion capricieuse de l'aimer, répandre sur la tête de son bourreau les plus chaudes tendresses de son âme. Ses pressentiments n'avaient pas été menteurs, tout s'écroulait autour d'elle. Le châtiment la foudroyait à l'improviste. Et elle n'eut aucun regret d'avoir cédé à son amant. Elle ne se repentit point de s'être livrée avec tant d'abandon, elle ne gémit point sur sa pureté perdue. Sa seule douleur, plus forte que tout remords et que toute crainte, plus forte que toute autre douleur, ce fut de penser qu'elle devrait partir, qu'elle devrait s'éloigner, qu'elle devrait se séparer de l'homme qui était la vie de sa vie. « Oh, mon ami, j'en mourrai. Je vais mourir loin de toi, seule, seule. Tu ne me fermeras point les yeux. » Elle lui parlait de sa mort avec un sourire profond, plein de certitude résignée. André lui faisait luire encore dans l'esprit l'éclair décevant d'une espérance, lui jetait au cœur le germe d'un rêve, d'un tourment futur. « Non, je ne te laisserai pas mourir. Tu seras encore mienne et pour longtemps. » Notre amour connaîtra encore des jours heureux. » Il lui parlait de l'avenir prochain. Il s'établirait à Florence, de là il irait souvent à Sienne sous prétexte d'études. Il y demeurerait des mois entiers, copiant quelques peintures anciennes, recherchant quelques anciennes chroniques. Leur amour mystérieux aurait son nid secret dans une rue déserte ou dans un faubourg, à la campagne, en une villa décorée de maïoliques et entourée d'un verger. Elle saurait bien trouver une heure pour leur amour. Quelquefois aussi, elle viendrait passer à Florence une semaine, une grande semaine de bonheur. Ils promèneraient leur idylle sur le coteau de Fiesole par un septembre doux comme un avril. Et les cyprès de Montougue ne seraient pas moins cléments que les cyprès de Skifanoia. « Si c'était vrai, si c'était vrai !» soupirait Marie. « Tu ne me crois pas ?» « Oui, je te crois, mais mon cœur me dit que toutes ces choses trop douces resteront un rêve. » Elle voulait qu'André la prît dans ses bras longuement, et elle demeurait appuyée contre sa poitrine, sans rien dire, si pelotonnant toute comme pour se cacher, avec le geste et le frisson d'une personne malade ou d'une personne menacée qui aurait besoin de protection. Elle demandait à André des caresses légères, de celles que, dans son langage d'amour, elle appelait des caresses d'âme, de celles qui la tendrissaient et la faisaient fondre en larmes, plus douces que toutes les voluptés. Elle ne pouvait pas comprendre comment il se faisait qu'en ces heures de spiritualité suprême, en ces douloureuses dernières minutes de passion, en ces minutes d'adieu, son amant ne voulut pas se contenter de lui baiser les mains. Elle suppliait, presque offensée par l'âpre désir d'André. « Non, mon amour, il me semble que tu es plus près de moi, plus serré contre moi, plus confondu avec mon être, quand tu t'assieds à mon côté, quand tu me prends la main, quand tu me regardes au fond des yeux, quand tu me dis les choses que toi seul sais dire. Il me semble que les autres caresses nous éloignent, qu'elles mettent entre toi et moi je ne sais quelle ombre. Je ne sais, je rends mal ce que je pense. » Après les autres caresses, je me sens si triste, si triste. Je ne sais, je me sens si lasse, d'une lassitude si mauvaise. » Elle suppliait, humble, soumise, craignant de lui déplaire. Elle ne faisait qu'évoquer des souvenirs anciens et récents, se rappelant jusqu'aux plus petits détails, jusqu'aux plus fugitives paroles, jusqu'aux menus fêtes les plus insignifiants qui avaient eu pour elle une signification. C'est vers les tout premiers jours de Skifanoia que son cœur retournait de préférence. « Tu te rappelles ? Tu te rappelles ?» Et soudain, des larmes inondaient ses yeux affligés. Un soir, André lui demanda, pensant au mari, « depuis que je te connais, as-tu toujours été tout à moi ?
Toujours.
Je ne parle point de l'âme.
Silence.
Oui, toujours tienne.
Toute.
Et lui qui, en cela, n'avait jamais cru aucune de ses maîtresses adultères, crut à la parole de Marie, sans avoir même l'ombre d'un doute sur la vérité qu'elle affirmait. Il la crut. Tout en la profanant et en la trompant sans retenue, il savait qu'il était aimé par une âme haute et fière, il savait qu'il se trouvait en présence d'une grande et terrible passion, il avait enfin une égale conscience de cette grandeur et de sa propre lâcheté. Il se savait, oui, il se savait immensément aimé. Et parfois, dans la fièvre de ses imaginations, il allait jusqu'à mordre la bouche de la douce créature pour ne pas crier un nom qui lui remontait invinciblement à la gorge. Et la bonne et dolente bouche, inconsciente, saignait dans un sourire et disait «
Même ainsi, tu ne me fais pas mal ».